BPM, élection départementale 2021.
Bonjour et bienvenue sur BPM. Si vous venez de nous rejoindre, les élections départementales auront lieu le 20 et 27 juin prochain. À cette occasion, BPM vous propose jusqu'au 18 juin des émissions spéciales. Les candidats pour les cantons de Bonnières, Sur-Seine, Limay et Mantes-la-Jolie viendront répondre à nos questions. Aujourd'hui, nous continuons à nous intéresser au canton de Bonnières et nous accueillons ce matin Didier Dumont de la liste de La République En Marche, engagé pour le 78, en binôme avec Dorothée Rivière. Didier Dumont, bonjour.
Bonjour et bonjour à tous les auditeurs de BPM.
Alors vous êtes maire de Bennecourt depuis 1989, votre binôme Dorothée Rivière est quant à elle élue au conseil municipal de Dammartin-en-Serve. Durant cette émission, nous allons aborder plusieurs volets des compétences du département. Tout d'abord, en 30 secondes, pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous avez choisi de vous présenter ?
Eh bien, nous sommes des élus de proximité, nous sommes en relation avec les élus municipaux de toutes les 67 communes. Et nous garantissons donc d'être à l'écoute du terrain. Notre action est ancrée dans le canton, conjointement à l'exercice des compétences municipales et intercommunales.
Alors, oui. Non, vous voulez rajouter quelque chose ?
Non, tout va bien.
Alors, on commence avec la première compétence, l'action sanitaire et sociale. Dans votre programme, vous évoquez les seniors. Que ferez-vous pour améliorer l'autonomie et favoriser le maintien à domicile de nos aînés ?
Voilà, l'expérience que j'ai eue au cours de ces nombreuses années... Ces expériences m'ont permis de tirer une première conclusion, à savoir que pour être efficace, l'action sociale doit être une action de proximité. Donc tout ce qui a pu concourir ces 2-3 dernières années à éloigner le pôle social des besoins locaux est une mauvaise chose. Très vite, nous nous sommes rendus compte que les gens ne pouvaient pas accéder, que c'était trop loin, que la prise de rendez-vous était compliquée. Et donc, on est en train, bien sûr, de revoir ça. Il semblerait que le département a révisé un peu sa copie. Parce qu'effectivement, ce sont d'abord les gens les plus faibles qui ont le plus besoin de proximité. La deuxième chose, nous nous sommes rendus compte qu'il y a un déficit au niveau de l'information. Il faut une information pratique, accessible, immédiate, pour les personnes âgées, en particulier, qui ont besoin d'être soutenues, qui n'ont pas beaucoup recours à l'Internet, voire pas du tout pour certains d'entre eux. Eux-mêmes, pour les gens fragilisés aussi, un peu marginalisés. Et le troisième point sur lequel je voudrais insister, moi j'ai été confronté à un très grave problème dans ma commune il y a quelques années, parce que j'avais des gens en précarité dans un caravaning. Et la vraie solution, elle nous est apparue lorsque le sous-préfet a pris la décision de réunir tous les services et de travailler collectivement. Je pense que dans une démocratie moderne, la façon de travailler doit être collective, elle doit être un travail d'équipe. Donc je pense qu'un des fondamentaux auquel il faut s'attacher, c'est justement le travail collectif. Travail collectif avec toutes les personnes en charge de l'action sociale, les associations caritatives aussi bien sûr, les CCAS, centres communaux d'action sociale, et les élus, toutes les personnes qui peuvent aider. Et même les entreprises privées parfois pourraient aussi être présentes. Je pense en particulier aux services de distribution de l'eau et de l'électricité, qui sont quand même aussi des éléments importants dans la vie des gens en précarité. Voilà, donc je pense qu'il faut réviser la copie, il faut maintenir la proximité, faire évoluer l'information, il faut troisièmement créer des structures de concertation collective, dans un premier temps qui pourrait être expérimentale, et dans un deuxième temps qui pourrait peut-être se généraliser.
C'est ça votre plan grand âge ?
Alors, dans le plan grand âge, bien sûr, ça en fait partie. Ça en fait partie, mais il y a une évolution très importante qui est en cours. Par exemple, j'ai assisté à l'Assemblée Générale de la MARPA de Bréval, et je peux vous dire qu'actuellement...
La MARPA, pour les auditeurs, c'est...
Oui, c'est une maison de retraite, si on peut dire, hein, mais qui n'est pas médicalisée. Voilà, ce n'est pas une EHPAD, c'est-à-dire ce qui concerne surtout le très grand âge. Il y a une variante entre deux, à Bonnières comme à Bréval, ce sont des exemples parmi d'autres. Et ces structures sont un peu en difficulté à l'heure actuelle parce qu'elles accueillent des gens qui ne souhaitent plus rester complètement chez elles parce qu'elles sont un peu isolées. Et actuellement, il y a une aide de plus en plus forte pour permettre l'autonomie à la maison. Alors ça, c'est bien, il faut accompagner ce mouvement. Je pense que, par exemple, je vois l'exemple de ma commune. Nous faisons une aide aux courses une fois par semaine. Je pense que ce système-là devrait être un peu généralisé dans toutes les communes rurales de manière à permettre aux personnes qui sont veuves, entre autres, qui sont sans véhicule ou qui ne peuvent plus conduire, Donc de pouvoir s'approvisionner au moins une fois par semaine, parce que faire les courses c'est tout bête, mais c'est, ça peut être compliqué au moins pour les produits frais, au minimum une fois par semaine. Donc ça, je pense que ça peut être aidé par des formules de subvention ou des formules d'aide par le biais, par exemple, des mini-taxis qui pourraient être mis à disposition ponctuellement. Et pour ce qui concerne donc la phase difficile pour les MARPA, il faudrait permettre que ces structures qui actuellement ont moins de gens, puisque les gens restent davantage chez eux, sont plus autonomes, puissent passer le cap. Donc elles auront besoin certainement de subventions pendant un certain temps, et il faudra peut-être réfléchir à l'articulation entre les deux, c'est-à-dire comment passer de la MARPA à l'EHPAD, peut-être réfléchir à des structures un peu intermédiaires, un peu plus médicalisées, avant d'aller recourir à des structures extrêmement lourdes et coûteuses telles que nous les connaissons dans les EHPAD.
Alors, est-ce que vous avez des propositions pour les personnes fragiles, comme les bénéficiaires du RSA ou encore les personnes en situation de handicap ?
Eh bien, je pense que pour ce qui concerne les personnes en situation de handicap, je suis moi-même confronté dans ma commune à des problématiques très sérieuses, à savoir que nous manquons cruellement d'aide et de structures de soutien face, par exemple, à l'autisme. Il faut savoir que la prise en charge d'une petite autiste actuellement pour une commune comme la mienne, c'est 700 euros par mois, sans aucune aide, sans aucune subvention de qui que ce soit. Donc ça me paraît complètement anormal, j'étais confronté à cela il y a peu de temps. Je pense que on ne peut pas se permettre de dire qu'on veut l'inclusion et en même temps laisser les communes complètement désemparées avec des problèmes qu'elles ne maîtrisent pas. Parce que d'abord, le personnel a besoin d'être formé, a besoin d'être compétent, et que pour certains enfants, c'est du un pour un. Il faut mettre un adulte pour un enfant autiste non verbal en permanence à côté d'elle. Donc tous les midis, on est obligé de prendre quelqu'un pour s'en occuper. Vous imaginez si nous avions deux ou trois cas de cette nature, je ne sais même pas où on trouverait l'argent, et déjà à l'heure actuelle, ça nous pose un gros problème. Il y a des choses à revoir avec le département, certainement, qui pourrait peut-être subventionner, puisque là, on est vraiment dans la vocation sociale. Concernant l'emploi des personnes handicapées, j'ai pris moi-même l'initiative dans ma commune d'employer une jeune handicapée. C'est un fait assez rare, je pense, c'est pas pour nous vanter, mais je pense que nous l'avons fait parce que nous pensons que nous pensons que cette jeune fille ne pouvait pas rester indéfiniment à faire des petits contrats à caractère ponctuel et sans jamais bénéficier d'un salaire. Donc nous l'avons fait. Encore faudrait-il que les aides qui sont prévues pour les contrats et autres soient versées à temps. Par exemple, nous avons attendu un an pour avoir les aides. Ça, ce n'est pas normal du tout. Et donc là aussi, je pense que toutes les formes d'aides qui peuvent être attribuées, soit même si elles sont ponctuelles, qui peuvent permettre l'intégration, doivent être mises en œuvre de façon plus sérieuse et plus systématique.
Alors, continuons avec l'enseignement et plus particulièrement les collèges, hein, des gros dossiers hein, dans votre canton. Vous indiquez dans votre programme que vous vous réjouissez que le collège François Mauriac d'Oudan fasse l'objet d'une réhabilitation avec un haut niveau d'exigence environnementale. Et vous vous posez sur la table la question, alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant pour Bréval et Bonnières-sur-Seine ?
Voilà, alors c'est une évidence pour moi, hein. Je regarde les publications du conseil départemental et j'observe que certains collèges vont avoir une reconstruction magnifique et on n'en peut en être que satisfait. Je remarque d'ailleurs que dans cette publication, à aucun moment, ces deux autres collèges que vous venez de citer n'étaient mentionnés.
Des donc, candidats le mentionnent.
Oui, non mais Monsieur les candidats le mentionnent après, peut-être parce que nous et les parents d'élèves l'avons mentionné. Donc, mais en tout cas, ils en sont à l'oral de rattrapage, là, hein, on peut dire. Mais je trouve que ça fait pas très sérieux quand on est candidat d'un binôme et qu'on a participé à l'élaboration de ce programme, que rien n'a été fait d'un seul coup, comme ça, on sort du chapeau, on va reconstruire un collège à Bonnières. Alors effectivement, nous demandons cela, mais nous le demandons non pas que dans le cadre de l'élection, nous l'avons... ça a été suivi par certains de mes collègues comme Emmanuel Cotin par exemple avec les parents d'élèves, donc c'est une affaire voilà, pour nous ça n'est pas le lapin qui sort du chapeau juste au moment des élections. Je veux dire que la liste qui présente ça maintenant après que nous en ayons parlé a recueilli des informations à Freneuse ou ailleurs à ce sujet et d'un seul coup on propose ça comme un nouveau programme. Je dirais que leur programme n'était pas fait et que simplement, ils ont mis ça comme une espèce de joker au dernier moment pour se faire élire. Mais comme c'est la liste sortante, entre autres Madame Jean, je suis désolé, il n'y a pas quitus là-dessus, rien n'était prévu pour Bonnières. Alors qu'on ne vienne pas aujourd'hui nous prendre, comme ça, nous faire croire que tout était prêt ou tout va se faire, la vérité n'est pas là.
Donc vous souhaitez le collège de Bréval également ?
Alors le collège de Bréval, c'est une situation, je pense, de modernisation qui s'implique, mais il n'y a pas la même situation. Si vous voulez, à Bonnières, il y a deux...
Il paraît que le collège de Bonnières est trop petit pour accueillir...
Alors voilà, il y a deux phénomènes à Bonnières. Il y a le phénomène de sureffectif, parce que notre canton ne cesse de construire, si vous voulez. Donc, avec la loi SRU, etc., il y a de plus en plus de constructions. Donc, le collège de Bonnières, actuellement, est en sureffectif de 150 élèves. Voilà. Donc, voilà, il n'est pas prévu pour. En plus, c'est un collège qui est ancien. Moi, je l'ai toujours connu à Bonnières. Il date de... des années 80 à peu près, bon, et vraiment aujourd'hui c'est plus du tout, sont plus du tout les normes environnementales. Et alors le deuxième phénomène qui s'est produit, ça c'est le département qui l'a voulu à l'époque, c'est d'enlever une partie des élèves, parce qu'il y avait un surcroît, d'enlever les élèves de Freneuse et de les mettre
à Rosny.
Alors là on a environ 210 ou 220 élèves, voilà. Donc vous voyez, je connais les chiffres, je connais le dossier, hein. Vous voyez ?
Bon. Ah ben oui. Mais il y a eu un plan quand même collège. Le département a fait un plan collège.
Il y a eu un plan, mais le plan, il n'était pas prévu de faire ce qui a été dit là récemment. Ce collège a été éclaté, il n'a pas été suffisamment mis en œuvre, et le plan n'était pas à la hauteur des besoins.
Pardon. On va passer maintenant aux compétences route et déplacement. Alors, comment améliorer la circulation dans le canton de Bonnières ? Il y a beaucoup d'embouteillages, il y a des routes, selon vous, qui sont dégradées et un manque de sécurité.
Voilà, alors...
Alors, en sachant qu'une route, ça coûte très très cher. Hein.
Ah bah, attendez, c'est pas un élu rural que vous allez dire ça.
Hein. D'ailleurs, à Bennecourt, il y a eu des...
Oui,
à Bennecourt, il y a eu des rénovations de routes.
Voilà, oui. Alors, en fait, il y a des endroits où il n'y a pas de problème, parce qu'on est en race campagne, et là, les routes doivent être entretenues, et ça, c'est un problème. Quelquefois, certains villages ont, quelquefois, comme Blaru, une quinzaine d'hameaux. Donc, vous imaginez ce que peut coûter l'entretien des routes. Bon, donc on en est tous un peu là. Alors, il existe déjà des choses très bien. Donc, on ne va pas faire une critique systématique. Il faut maintenir ce qui est bien et, par contre, améliorer ce qui est moins bien ou ce qui ne va pas. Donc, je vais faire la part des choses. Le triennal, voirie, c'est très bien. C'est fonction du nombre de kilomètres de chaque village, chaque ville, chaque commune. Donc, c'est une bonne chose. Il faut le conserver et peut-être améliorer les montants si on le peut. Mais en tout cas, les choses sont positives et là-dessus, il n'y a rien à dire. Donc, je donnerai quitus au département de ce très bon programme. Concernant, par contre, d'autres points particuliers, alors, il y a des cas très spécifiques. Je vais vous en donner... alors, je vais pas prendre ma commune, je vais prendre une commune voisine qui est confrontée à un très gros problème de traversée de route, pas de traversée routière, parce que il y a des lignes de transport et parce qu'il y a des gens qui viennent du 27 et du 95 et qui vont jusqu'au pont de Bennecourt. Donc nous sommes un peu le nœud de tout ça. Et donc la commune de Gommecourt n'est pas en situation financière de financer, n'est pas capable actuellement de faire les gros travaux dont elle aurait besoin, en particulier cette espèce de grande côte des sept tournants là qui descend de Gommecourt à Clachalose et qui est absolument indispensable. Il y a des lignes de transport public qui sont là. Cette route est en mauvais état, elle a besoin d'être soutenue. Mais il y a des cas particuliers, si vous voulez, où en fait le département, à mon avis, doit prendre la main. Alors, sous quelle forme, ça, juridiquement, c'est peut-être à trouver. Je pense qu'on trouvera des juristes qui permettront de mettre au point une telle problématique. Mais je pense que lorsqu'il y a des ouvrages un peu neuroutiers ou des ouvrages impossibles à financer pour les très petites communes ou les communes qui ont un endettement assez important parce qu'elles ne peuvent pas, elles n'ont pas de ressources propres suffisantes, peut-être que le département, là, devrait prendre la main quand il y a un intérêt public départemental.
Nous allons passer à la culture, un thème qui vous est cher. Vous reprochez au département d'être le seul de France à avoir supprimé la bibliothèque départementale. Alors comment comptez-vous remédier à ce problème et pourquoi, selon vous, la lecture publique a-t-elle été sacrifiée en matière de fonctionnement ?
Alors ça, c'est une question qu'il faut poser à le pays. Hein.
Le pays qui est ?
On sent pour les Yvelines, avec la majorité sortante. Pourquoi Madame Jean a-t-elle voté, entre autres, avec la majorité, sans grande discussion, la suppression de cette, de ce très grand outil. Est-il normal que nous soyons le seul département français à ne pas avoir de bibliothèque départementale? Moi, je pense que non. Est-il normal que, considérant le passé artistique, littéraire, considérable du département des Yvelines, tout ça soit tiré, enfin, qu'il y ait un grand trait là-dessus? Je rappelle à tout le monde que la lecture publique est inscrite dans les textes et dépend, est une compétence du département.
Il y a des médiathèques dans les
alors,
villes.
Certes.
Qui ont été cofinancées par le département des Yvelines.
Oui, mais là, c'est toute la problématique que vous soulevez, justement, à savoir que l'aide pour l'investissement, c'est une bonne chose, mais comment voulez-vous faire fonctionner tout ça? Il faut savoir que depuis 2016, nous ne touchons plus un seul euro de subvention. Ma commune, dans ma commune, le fait d'employer une personne qualifiée et tout ce que nous gérons autour, c'est 95 000 euros par an. Subvention du département depuis 2016, zéro. Donc en fait, l'argent a été mis sur l'investissement et c'est très bien. On ne va pas le regretter. Mais attention, il n'y a pas que le département. Il y a aussi la DRAC qui nous a aidés, donc à l'État, etc.
Oui,
donc,
mais en général, c'est tripartite.
Mais voilà. Donc il y a eu des fonds diversifiés. Mais en même temps, il faut que ça fonctionne. Et pour que ça fonctionne bien, il faut du personnel un peu qualifié. Il y a beaucoup, dans la petite commune rurale, de personnel bénévole et qui se qualifie, c'est vrai. Mais nous avons aussi besoin d'une structure porteuse, quelquefois. Alors, je vais aller plus loin. Il y a eu des aides ponctuelles pour le système que nous avons mis en place. Parce que devant l'effroi que nous avons constaté dans toutes nos petites bibliothèques, à savoir que plus d'investissement possible pour les livres, ça a été pour nous une vraie catastrophe. Donc nous nous sommes mis en réseau. Ce réseau a été aidé, pris en charge en partie par la CCPIF. Mais je veux dire qu'on a aménagé la misère. Il faut quand même être réaliste. C'est-à-dire qu'on a mis en commun 60 000 ouvrages, mais on a mis en commun ce que nous avions. Mais ça ne supprime pas le problème de l'investissement pour les œuvres et pour le personnel, qui là, par contre, reste un problème. Je vais quand même vous donner un ou deux chiffres, quoi. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, tout ça? Ça veut dire que pour les bibliothèques médiathèques de la CCPIF, en fonction des structures, nous avons perdu 30 à 40% pour le prêt de documents et 40 à 60% pour les subventions. C'est quand même quelque chose dont il faut parler. Et là, par contre, ben, j'aimerais bien que... Voilà, Madame Jean, elle était là, hein, bien, elle a voté. Eh bien, il va falloir que tout ça s'explique.
Mais alors, qu'est-ce que vous comptez? Vous êtes élu demain.
160 000
admettons.
Documents ont été dispersés ou détruits. 160 000 documents. Voilà, dispersés ou détruits. C'est-à-dire, on l'a refilé un peu partout, on en a mis au pilon. Voilà. Mais bon, quelle grande perte, hein, quand même, pour la culture. Alors, qu'est-ce que vous comptez? Ben, je compte poser le problème, et je compte le poser, le reposer, et je compte effectivement que cette question soit réétudiée. Parce que, à mon avis, on ne peut pas faire fi de la culture. On ne peut pas faire fi de la lecture. Dans une période aussi dramatique que celle que nous vivons, avec tellement d'obscurantisme, avec une façon de penser de plus en plus clanique par les réseaux sociaux, il faut restaurer la capacité de l'individu à comprendre, à prendre des décisions. Et c'est l'enfance qui est en question. C'est là que nous pouvons apprendre. Nous avons mis en place des structures pour la citoyenneté, des actions particulières pour la culture, des actions conviviales pour le vivre ensemble. Je pense que là, la culture a un grand rôle à jouer et je ne manquerai pas de rappeler ses nécessités.
Allez, dernière question, il nous reste une minute. On va parler aménagement du territoire. Quelles sont vos propositions pour respecter l'équilibre entre l'urbanisme, l'agriculture et les espaces naturels protégés? Vous êtes le maire d'une commune rurale, c'est votre quotidien ça?
Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Alors, la loi SRU, si vous voulez, a eu des conséquences très importantes puisque maintenant il n'y a plus de coefficient d'occupation des sols. Et du coup, on voit des dérives, c'est-à-dire qu'il y a des constructions en drapeau partout qui se multiplient, les communes s'en inquiètent, etc. Il ne pourra pas y avoir de constructions multiples comme on le fait et de densification à outrance s'il n'y a pas de l'autre côté les équipements qui suivent. Alors, plus de population, ça veut dire plus d'équipements, agrandir les cantines, il va falloir y penser, ça veut dire aussi agrandir les écoles dans certains cas, ça veut dire aussi résoudre les problématiques. Par exemple, autour des gares, nos populations, cette nouvelle population, elle arrive, mais elle va avoir besoin d'aller travailler. Alors, soit elle travaille à distance, et c'est très bien comme ça, mais elle peut aussi avoir besoin d'aller rejoindre Paris. Et il faudra bien que la connexion J'avais d'ailleurs interpellé Mme Pécresse à ce sujet-là. Elle m'a dit, ça peut se faire. Voilà. Et du coup, maintenant, ça devient un peu dans le programme. Je suis content. Moi, j'initie pas mal de trucs qui ont l'air de faire leur chemin. C'est parfait. Alors donc, bah oui, effectivement, il va falloir se poser la question des transports, la question des structures et des politiques d'accompagnement. Il faudra aussi permettre aux jeunes de trouver des lieux pour qu'ils puissent parler et qu'ils puissent s'intégrer dans la société, tant au plan économique, au plan social et autres. Et il n'y a pas, à mon avis, il y a un très gros déficit pour les 15-25 ans. C'est-à-dire que ce que fait, par exemple, la mission locale et autres, qui n'existe pas chez nous dans notre secteur. Donc peut-être une antenne mission locale, ou tout simplement peut-être quelque chose qui pourrait être une nouvelle structure, comme le BIGE ou autre, ou même une maison de la jeunesse, peut-être essayer d'innover un peu ou d'être expérimentaux. Voilà.
Didier Dubon, vous êtes le quatrième et dernier candidat à avoir été interviewé sur BPM pour le canton de Bonnières. Cette émission sera rediffusée à 12h30 et 18h30. Sachez d'ores et déjà que nous vous proposons une émission spéciale en direct à 7h30 et 8h30 le mercredi 23 juin. Notez-le bien, nous recevrons les candidats qualifiés au second tour de ces élections départementales pour le canton de Bonnières. Demain, nous nous intéresserons au canton de Limay. Nous recevrons Alexandre Achard à 8h. Excellente journée.
Il y aura peut-être qu'un premier tour.
Excellente journée à l'écoute de BPM.